mais pas un acte volontaire. Donc, enfin, c'est curieux comme chose. Il faut pas saisir ça parce que c'est pas si pas mal que ça. Alors, je voudrais souligner avec vous tout de suite quelque chose ici qui me semble très important. C'est que dans l'exécution, il y a deux actes. Dans l'exécution, il y a deux moments. Il y a un premier moment dans l'exécution qu'on appelle l'imperium. Nous l'avions déjà vu. Il y a l'imperium. L'imperium qui consiste à dire « fais ceci ». Chose très importante. L'imperium, selon saint Thomas, est d'ordre de l'intelligence. Très curieux. À première vue, on dirait, je sais que saint Thomas, de temps en temps, dit que c'est un acte volontaire. Et quand il l'étudie, il dit que c'est un acte de l'intelligence. Fais ceci. Le réveil matin. L'exécution, fais ceci. Et alors, dès qu'il y a le fait ceci qui est un acte d'intelligence, il s'agit de s'appliquer. Et alors là, la volonté. C'est pour ça que dans l'exécution, les deux sont impliqués dedans. Alors quand je dis c'est un acte d'intelligence et l'imperium, comprenez bien, c'est un acte d'intelligence pratique. C'est un acte d'intelligence qui implique l'amour, dans lequel l'amour est présent. Et je ne peux pas séparer l'amour de l'intelligence dans l'imperium. C'est l'intelligence qui est claire. Tout ce que représente l'exécution. Tout ce que représente l'exécution. C'est l'intelligence qui éclaire cette phase d'opacité de passer à l'exécution, de réaliser quelque chose, de me jeter à l'eau. L'intelligence est claire. Elle éclaire toutes les difficultés qui existent à ce moment-là. Elle montre ce que ça représente. Passer d'un choix à l'égard d'un moyen, à la réalisation concrète. L'exécution, c'est la réalisation concrète. Alors, il s'agit d'un... Dans cette réalisation concrète, il s'agit de la faire avec intelligence. Et l'intelligence est là pour éclairer cette difficulté particulière qui consiste à passer à l'exécution. Et la volonté est présente avec tout son poids pour réaliser la chose. Alors, vous voyez, là, je retrouve bien la volonté d'efficacité. La volonté d'efficacité, nous l'avions déjà parlé à propos de l'intention, mais au fond, la volonté d'efficacité, elle est surtout dans l'ordre de l'exécution. Il s'agit de mettre tout mon poids pour réaliser la chose. Tout le poids pour réaliser ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai décidé de réaliser. Alors, il y a tout le poids volontaire à ce moment-là. Tout le poids de l'amour. Et très souvent, pour pouvoir passer à l'exécution, cette volonté devra revenir à la source, c'est-à-dire à cet amour. Et c'est du reste très souvent ce qu'il faut faire. Quand l'exécution semble particulièrement difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de reprendre la signification profonde de cette exécution. Et de comprendre que je fais ça par amour. Et on fera spontanément ça. Comme le petit gosse, vous savez, qui trouve que sa soupe est mauvaise. Et qui n'aime pas la soupe que j'ai vue. Et on lui dit d'en prendre. Et alors on lui dira une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une chose très bien. Alors vous voyez symboliquement tout ce que ça peut représenter. N'est-ce pas ? Eh bien ça c'est très significatif. C'est que l'exécution étant difficile, il faut que l'amour soit présent. L'exécution étant quelque chose de particulièrement difficile, ben pour quelqu'un c'est de manger, c'est une exécution de se mettre à table et de manger. Ou bien d'accepter d'être opéré, d'accepter de prendre tel ou tel médicament, d'accepter de, pour quelqu'un qui est un ascète absolu, n'est-ce pas, de se reposer. C'est effrayant d'accepter de se reposer, alors qu'il avait décidé de jamais se reposer, mais d'accepter tout d'un coup, par obéissance. Il doit entrer dans l'exécution, l'exécution. Il doit accepter de se reposer. À ce moment-là, pour pouvoir accepter cette chose tout à fait anormale, difficile à accepter parce que ça vient en dehors du projet de sa vie, il devra faire appel à l'amour. Je fais ça pour tout. Alors à ce moment-là, on marche sur plus d'espèces importantes, ce que je fais. Non, je fais ça pour toi. Et nous disons ça au fond de notre cœur, au Christ. Et nous marchons. Nous sommes heureux de pouvoir offrir ça. Alors, ça, c'est très important. Parce que, vous voyez, alors c'est là on voit que les deux extrêmes se touchent. C'est ça qui est très extraordinaire. Les deux extrêmes se touchent. L'aspect affectif le plus grand va toucher l'efficience de l'exécution. L'efficience de l'exécution ne pourra se réaliser parfaitement que si elle est entièrement assumée par ce premier ami, par cette union affective. Et c'est grâce à cette union affective, grâce à cet amour, que l'exécution pourra se réaliser. Alors là, vous voyez bien les deux grandes dimensions de la volonté. Donc nous les reprendrons demain. Mais les deux grandes dimensions de la volonté. Dimension affective. La volonté est une capacité d'aimer. Dimension d'efficacité. D'efficience. La volonté demande l'exécution. Autrement, c'est pas un véritable amour. Un véritable amour se prouve par des actes. Et un véritable amour se prouve par des actes, et c'est par ces actes que ma volonté se fortifie. Et que ma volonté s'agrandit. Et comme mon amour est un véritable amour, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Et on aurait toujours la tentation de couper, à dire l'amour pur, oui, sans engagement. L'amour pur, ça, sans acte. Moi je suis pour l'amour pur, attention, en disant ça, vous coupez l'amour de l'efficacité. Et en coupant l'amour de l'efficacité, vous tuez l'amour. L'amour perd sa force. L'amour perd son caractère de réalisme profond, et l'amour devient vellicaire. Il devient vellicaire. Alors là, vous voyez bien la différence entre un acte volontaire et un acte vellicaire. Un acte vellicaire restera uniquement dans une espèce d'idéal. Un acte volontaire ira jusqu'au bout de l'exécution et demandera d'aller jusqu'au bout de l'exécution. Demain, c'est une question. Mais je répondrai aux questions au début de l'après-midi. Je crois que c'est peut-être mieux. Le matin, normalement, on est plus apte. Et puis l'après-midi, les questions vous réveillent. Alors, je vous dis, parce que je crois que c'est important d'essayer de saisir dans une grande synthèse, c'est pas autre chose que j'ai essayé de vous donner, le développement de l'acte volontaire qui nous fait comprendre ce que c'est que la volonté, avec le concours constant de l'intelligence. Et on distingue intelligence et volonté, mais dans l'ordre pratique, il faut comprendre que constamment, on s'appuie sur l'un et l'autre. Parce que ce sont nos deux jambes, ou nos deux ailes. Ça dépend comment vous le comprenez. C'est à la fois deux jambes et deux ailes, l'intelligence et la volonté. Parce que nous regardons le concret, immédiat, et en même temps, nous nous élevons toujours au-dessus. Et perpétuellement, nous faisons appel à l'intelligence et au cœur, perpétuellement. Et il faut surtout que l'intelligence ne devienne pas une intelligence rationnelle qui s'oppose alors à ce moment-là au cœur. C'est ça le tragique. Et ce tragique, il a commencé avec Descartes. Alors je vous dis tout de suite la position de Descartes comparativement à ce que nous avions vu hier, et puis nous reprendrons la position d'hier pour creuser davantage. Mais je crois que c'est important de se rappeler ce grand tournant. Parce que c'est quand même un très grand tournant dans notre philosophie occidentale. C'est ce moment, si vous voulez, de Descartes où il veut se séparer des théologiens. Il ne faut pas l'oublier. Descartes a voulu redécouvrir une certitude en dehors de la foi. Vous voyez, il a compris que les théologiens étaient des tyrans, ce qui existe de temps en temps. Tu vois. Les théologiens peuvent être des tyrans quand ils ne sont pas assez intelligents. Alors ils deviennent des tyrans, parce qu'ils ont une certitude de foi, surtout à cette époque du XVIIe siècle, on voit très très bien. Alors on bloque un peu tout, et alors les théologiens deviennent des tyrans, ils deviennent des dogmaticiens.
Alors, en face de ces tyrans, l'intelligence veut redécouvrir sa liberté. L'intelligence veut redécouvrir son autonomie. Et tout le problème de Descartes, c'est cela. C'est la redécouverte de l'autonomie de l'intelligence. Comment l'intelligence peut-elle, face aux théologiens, il a eu comme maître des théologiens, il ne faut pas l'oublier, et alors face à ces théologiens, redécouvrir la liberté de l'intelligence, l'autonomie de l'intelligence. Et son problème, c'est de voir où pouvons-nous découvrir la certitude. Il ne dit pas la vérité, mais la certitude. Je crois que seule la vérité libère l'intelligence. Il n'est jamais dit dans l'Écriture que la certitude vous libère l'intelligence, vous libère l'intelligence. Tandis qu'on dit que la vérité vous libérera. C'est très significatif. C'est la vérité qui libère, ce n'est pas la certitude. Bon, ceci, c'est l'Écriture, mais je pourrais, au point de vue purement philosophique, montrer que seule la vérité libère. Parce que seule la vérité apporte à l'intelligence sa perfection propre et permet à l'intelligence, par le fait même, de pouvoir être parfaitement elle-même. On est libéré quand on est parfaitement soi-même. Hein, c'est ça. Et qu'ordinairement, il y a un double personnage en nous et c'est ce qui fait le chahut qui est en nous. Quand on est soi-même et qu'on a découvert la source profonde de notre être, ah, on respire. C'est simple. Oui, c'est si simple. Alors qu'avant, c'était très complexe. Alors ça met du temps. Hein. On le sera parfaitement que quand on entrera dans la vision bénéfique. Ça, c'est ça. Tant qu'on est sur la Terre, il y a toujours des petites complexités, il y a toujours des imaginations qui reviennent et qui fait que nous regardons plus notre conditionnement que notre finalité. C'est au fond là le drame de notre vie. Le drame constant de notre vie, c'est ça. C'est que le conditionnement étant donné le plus immédiat, nous sommes omnubilés par le conditionnement et nous ne regardons plus la finalité. Vous voyez, c'est ça le drame de Descartes. Je le traduis de cette manière-là. Parce que je crois que c'est ça vraiment le drame de Descartes. Il a regardé plus le conditionnement que la finalité. À partir de Descartes, la finalité disparaît. Et il n'y a plus que le conditionnement. Quel est le conditionnement? C'est la certitude. La vérité, c'est la finalité. Tandis qu'au contraire, la certitude, c'est le conditionnement. Je peux le saisir. Et là, cette chose terrible de faire ça par rapport à l'intelligence. Et nous sommes tous, il faut bien le dire, nous sommes tous marqués très profondément par Descartes, beaucoup plus qu'on ne pense. On respire ces termes-là. On le respire. Descartes était un dieu en Sorbonne. Hein, on n'aurait jamais osé attaquer Descartes. Il a fallu la génération des existentialistes. Il fallait des gens comme Sartre pour pouvoir dire ouvertement certaines choses, tout en reconnaissant la grandeur de Descartes. Hein. Vous savez, la parole de Sartre, terrible sur Descartes, qui, je crois, est assez juste, parce qu'il est malin. Sartre est très, il est très malin. Alors, il retombe toujours sur ses pattes. Alors Sartre dit cette chose terrible sur Descartes. Au fond, Descartes est croyant à cause de l'époque à laquelle il vit. S'il vivait dans notre temps, il ne serait plus croyant, étant donné ce qu'il dit. Et il se montre, lui, alors, disciple de Descartes, incroyant, c'est-à-dire athée, par rapport. Non seulement incroyant, mais athée. Descartes a continué de croire, a continué d'affirmer l'existence de Dieu en raison de l'époque dans laquelle il était, donc en raison de son conditionnement. S'il était parfaitement lui-même, il ne le serait plus. S'il était vraiment à notre époque, il serait athée. Parce qu'il met un primat sur le sujet. Et si on met le primat sur le sujet, on ne peut plus reconnaître l'existence de Dieu. Donc, le conditionnement. Alors, Descartes dit ceci à propos de la volonté. C'est ça qui m'intéresse ici. Il dit que la volonté est premièrement la volonté d'efficience. C'est quand même très important. La volonté, c'est tout de suite la volonté d'efficience. Alors, vous comprenez que tout à partir de là, il est facile de comprendre l'opposition entre volonté et cœur. L'opposition de Pascal. La volonté et le cœur. Ça, nous comprenons tout de suite. Un homme volontaire, c'est un homme d'efficience. Vous voyez, c'est la volonté stoïcienne qui a maintenu. Et c'est très vrai. Je crois qu'à travers la morale des pères jésuites, n'est-ce pas ? Donc, à travers la morale que Descartes a reçue, il y a beaucoup de stoïcisme. Et alors nous retrouvons le stoïcisme chez Descartes dans cette volonté d'efficience. C'est la volonté d'efficience. La volonté stoïcienne est une volonté d'efficience. Il faut marcher, marche ou crève. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et alors à tout prix, tenir. Donc volonté d'efficience. L'amour, c'est le cœur. Et pour Descartes, l'amour, c'est la passion. Il n'y a pas de cœur spirituel chez Descartes. C'est ennuyeux, mais c'est comme ça, c'est un fait. Donc l'amour, c'est la passion. Quand vous parlez d'amour, vous parlez de sentiment. L'amour, c'est le sentiment. Quelque chose de purement subjectif, donc c'est la question passionnelle. Il n'y a pas d'amour au niveau spirituel. Vous voyez comme c'est important. Alors, vous voyez la continuité avec Freud. Il n'y a pas d'amour spirituel. Il n'y a qu'un amour passionnel lié à l'instinct. Et vous avez directement la position freudienne. Vous n'avez plus que les retentions. Et l'amour agapé, l'amour filia, n'existe plus. Et ça, c'est déjà chez Descartes. Hein. Alors c'est important de voir ce grand tournant, parce que c'est un tournant formidable. Vous voyez, pervertir l'intelligence, c'est terrible, mais pervertir aussi le point de vue de la volonté et supprimer l'amour spirituel, c'est effrayant. On ne voit pas comment on peut être chrétien. S'il n'y a plus d'amour, si l'amour est uniquement une question de passion. Alors l'amour spirituel disparaît, il n'y a plus de contemplation. Et ceci, vous comprenez qu'à partir de là, c'est le primat de la raison. Et c'est très vrai, chez Descartes, c'est le primat de la raison, c'est le primat de l'idée. Dans le cogito, vous êtes en face du primat de la raison et de l'idée. Ce n'est plus l'intelligence au sens tout à fait propre qui cherche la vérité, c'est la certitude qu'on cherche. Et la certitude, on les a dans nos idées. Donc dans le repliement sur soi, vous trouvez la certitude. Certitude, c'est là. Alors, il y a toute une influence mathématique qui se fait sentir chez Descartes, où il y a ce souci de certitude, ce souci de réflexion sur la raison, et l'intelligence n'est plus au service de l'amour spirituel, et l'amour spirituel tombe. Mais c'est quand même très curieux. Quand l'intelligence n'est plus au service de l'amour spirituel se dégrade dans l'amour passionnel. Parce que quand même Descartes a dû vivre. Il a quand même dû vivre quand il était jeune. Il y avait quand même un cœur chez Descartes. Il y a un cœur spirituel, il dit un bon petit chrétien. Il a été préparé à la première communion. Il a dû connaître quand même cela. Et il a dû être bien préparé. Il a dû quand même connaître ce point de vue-là. Et puis d'un coup, progressivement, Descartes, voulant garder son autonomie, réfléchit le cogito. L'idée. La raison. La raison n'a plus rien à voir avec le point de vue de la volonté, avec le point de vue du cœur. Rien du tout. Et alors le cœur redevient la passion. Et l'amour devient passionnel. Alors vous avez à partir de là cette division entre la raison, la volonté d'efficience et le cœur sensible. La plupart des gens vivent comme ça. Il faut bien voir. La plupart des gens vivent sur ce chêne. Ils ont la raison, c'est le domaine de la raison, là on raisonne. Dans le domaine de la méditation, on raisonne, plus de contemplation. Il n'y a plus que la méditation à partir de Descartes. C'est-à-dire, on a fusillé la contemplation. Parce que dès que vous supprimez le lien entre l'intelligence et le cœur spirituel, vous supprimez la contemplation. Il n'y a plus de possibilité de contemplation. Il n'y a plus vous comprenez bien, la contemplation divine, hein, elle est autre, mais elle a un soubassement humain. Elle a un soubassement humain. La grâce assume la nature. La grâce présuppose la nature et elle l'assume. Si du côté de la nature, vous supprimez le lien profond entre l'intelligence et le cœur spirituel, donc la volonté dans ce qu'elle veut, il n'y a plus possibilité de contemplation. Alors, on se réfugie dans la méditation. On comprend bien que c'est des méditations, hein. C'est les méditations cartésiennes, c'est la méditation métaphysique. On se réfugie dans la méditation. La méditation, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est une œuvre de raison. Dans la vie pratique, soyez stoïcien. ou soyez stoïcienne, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Alors, c'est la volonté d'efficacité.
Il faut tenir bon, c'est tout. Le devoir. Le devoir, on fait son devoir. On devient des gens héroïques, alors. Méditation, devoir.
Ah, le sentiment, oh, c'est très bien, c'est très bien. Surtout que ça ne déborde pas.
Vous avez le sentiment.
Sentiment affectif, venez, c'est plus agréable, évidemment, qu'un peu de sentiment, de petites émotions, n'est-ce pas? Des petites émotions sensibles qui viennent là. Alors ça, c'est la dévotion. C'est la dévotion. Vous voyez, alors on maintient cette dévotion pour maintenir quand même quelque chose d'un petit peu plus facile. Alors vous avez le point de vue de la dévotion, mais la contemplation, n'est-ce pas? Alors ça, c'est très important de voir ce schème-là, hein, ce schème cartésien. Je reprends celui qu'on disait hier pour que vous voyez mieux comment ce schème cartésien supprime la contemplation. Et ça a supprimé la contemplation. Il faut bien voir ça. Vous avez encore des théologiens qui méditent, mais il n'y a plus de théologiens qui contemplent. Enfin, vous en avez encore, heureusement, parce que le Saint-Esprit se rattrape toujours. Mais au fond, il n'y en a plus. C'est comme disait un père jésuite, un jeune, un tout jeune, 22 ans, qui vient d'entrer. Et qui me disait, oui, c'est l'Inde qui va sauver la compagnie. C'est l'Inde qui va sauver la compagnie. Parce qu'il y a tellement de vocations dans l'Inde, ils veulent tous la contemplation. Alors, ils seront obligés d'abandonner Hegel. Ils seront obligés. Et il dit, on commence à le voir. Parce que, de fait, bientôt, les jésuites de l'Inde vont être plus nombreux que les jésuites américains. Ils vont être plus nombreux que la formation, la pure méditation d'efficacité. Alors, la chose. C'est quand même très cru, il disait ça il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois. Et avec son regard de jeune. Hein. Alors lui, hein, il ne faut pas louper le tournant. Et alors il est déjà du côté de l'Inde. Il m'a dit ouvertement, nous voulons, nous, la contemplation. Nous voulons la métaphysique. Parce que nous comprenons qu'il faut que notre intelligence soit cultivée, soit éveillée. Alors nous voulons la métaphysique, nous ne voulons pas Hegel, nous le rejetons. Alors nous ne le disons pas ouvertement, je peux vous dire ça à vous parce que vous ne le répéterez pas. Extrinsèque à la compagnie, on ne le dit pas, mais nous sommes plusieurs. C'est lui qui avait voulu le rencontrer par des amis communs. Nous sommes plusieurs à comprendre que c'est fini. Cet hegelianisme, ce rationalisme hegelien, nous en avons soupé. Parce que ça supprime la contemplation. Et c'est très vrai, de Descartes à Hegel, c'est le rationalisme dans sa chose la plus forte. Hegel voudra dépasser ce rationalisme. Ça c'est très vrai, il est suffisamment intelligent pour comprendre que c'est terrible. Il veut le dépasser, mais c'est terrible qu'il n'arrive pas à le dépasser. Il restera dans cette dialectique. Donc, méditation. Et alors, volonté d'efficacité, ce sont des gens qui, au point de vue moral, sont quelquefois merveilleux, sont des excellents religieux, comme on dit, ce sont des gens qui ont une volonté de faire, et ça pourra aller très loin dans leur volonté, mais c'est terrible quand ils sont supérieurs. Hein. Volonté de faire, l'efficacité, c'est vraiment le point de vue de la volonté stoïcienne absolue. Et puis alors, la passion, la dévotion. Des petits moments comme ça, de dévotion qui montent, les petits printemps qui font quelque chose. Alors, regardons maintenant, parallèlement à ce schème, qui, je crois, est très incrusté, beaucoup plus qu'on ne le pense. Très, très incrusté, c'est arrivé à se maintenir très fort. Or, nous sentons très bien que tout cela ne peut plus exister. Nous sentons, il y a un tournant qui s'est fait, hein. Quelque chose de très très beau du reste, une reprise radicale. Il y a des succès d'années à cela, c'est sûr, ceux qui descendent le fleuve, des succès d'années, et puis il y a la reprise, retrouver la source. Si on veut retrouver la source, hein, il s'agit de retrouver ce qu'il y a de plus profond en nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond en nous? Notre cœur spirituel. Notre cœur spirituel. Notre cœur spirituel, dans un langage de saint Thomas, c'est la volonté. Il ne faut pas s'arrêter aux mots. Hein. Il faut même savoir, comprendre qu'il y a un langage spirituel, puis qu'il y a un langage théologique. Et que les deux les deux doivent se tenir. Le cœur spirituel, ce qu'il y a de plus intime en nous, notre intimité la plus profonde, c'est notre cœur spirituel. Ce cœur spirituel, c'est la volonté qui regarde le bien. Le bien spirituel, c'est-à-dire la personne aimée. C'est la personne aimée, la personne capable de me transformer. Au point de vue humain, la personne humaine. Au point de vue profond et divin, Dieu, en tant que personne. Alors, le Christ et le Père, dans l'ordre surnaturel. Le Christ et le Père. Alors, entre deux, évidemment, au plan surnaturel, c'est l'agapé. C'est l'agapé. L'agapé qui est au-delà de la distinction de héros et filia. Vous savez bien, cette chose extraordinaire. C'est les débats qui ont été repris aujourd'hui, mais c'est des débats très anciens. Parce que c'est déjà chez Denis. Denis, dans son traité sur les noms divins, se demande si l'agapé assume Eros. Et alors il reprend un texte du livre des rois, qui est très très beau, en disant « Ton amour m'a saisi plus que les femmes ». Et donc il dit, à partir de là, on voit bien que dans l'agapé divin, l'amour divin, eh bien, il assume Eros. Héros, c'est un mot passionnel. C'est intéressant parce que ça montre bien que l'agapé divine, n'est-ce pas, qui transforme notre cœur est transformé par l'agapé. C'est l'amour du Saint-Esprit, c'est le souffle de l'Esprit-Saint qui, au-dedans de nous-mêmes, nous ouvre à l'amour du Père. Et nous fait comprendre cette naissance à l'amour du Père. L'Esprit-Saint, au-dedans de notre au plus intime de notre cœur, nous fait vivre Père. Et c'est vraiment cela, l'amour. Hein. On ne peut pas dire Père en dehors de l'amour. On ne peut dire Père que dans l'amour, que dans cette naissance éternelle. Et donc, l'agapé, dans son exercice tout à fait divin, sous le souffle du don de sagesse, on le dit tout de suite, sous le souffle du don de sagesse. Donc l'intelligence intervient dans cet amour est intelligent. Parce que c'est un amour spirituel, nous fait dire Père, et nous met en relation directe et personnelle avec le Père. Parce que justement, notre cœur spirituel, qui est notre volonté, transformé par la grâce, devient l'agapé. Et devient le lieu de rencontre avec le Père. Et c'est là où nous subissons l'attraction du Père. Et c'est là où nous laissons entraîner par le Père. Et alors, tous les textes de l'Écriture qui nous montreraient bien ce que représente cette intériorité, ce qu'il y a de plus intime en nous, hein, c'est très très important de nous rappeler ça, ce qu'il y a de plus intime en nous, c'est notre cœur spirituel par où nous sommes capables d'être en relation avec une personne, par où nous sommes capables d'être reliés à une personne qui pour nous est source de vie, parce que nous vivons dans la mesure où nous aimons. Or, c'est ce bien qui suscite en nous cet amour. Et donc ce bien, cette personne est source de vie pour nous, dans la mesure même où elle nous attire. Alors elle suscite en nous un amour. Et c'est bien, je crois, ce que l'Esprit-Saint nous fait comprendre quand il nous dit Père, quand il nous fait dire Père. Nous comprenons que c'est le Père qui, en nous attirant, nous donne vie. C'est en nous attirant qui nous fait sortir de nous et qui nous donne vie. Donc, le cœur spirituel, hein, qui est la chose la plus fondamentale en nous, cette volonté, ce que nous disions hier, cette volonté implique l'intelligence qui connaît ce bien. Et au plan surnaturel, cette volonté implique la foi. Mais parallélisme, hein, faut bien saisir les deux plans différents. Le plan naturel... Qui attend le plan surnaturel. Les deux, ce sont les plans surnaturels qui assument le plan naturel. Il faut nécessairement, au développement de cet amour spirituel, de ce cœur spirituel, il faut que l'intelligence soit au service de cet amour spirituel. L'intelligence est au service, c'est pas la raison, vous voyez. La raison raisonnante ne peut pas être au service. Et même la raison se tait. Elle n'entre pas. Ne raisonne pas. Tais-toi, yeah, hein, c'est ça qu'on sent très très fort. Que la raison comme telle est extrinsèque. La logique comme telle est extrinsèque. Vous n'avez pas une logique aimante. La logique est un instrument qui perfectionne votre raison mais votre logique est au service de votre intelligence. L'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, jugement d'existence, et l'intelligence contemplative, est alliée à l'amour. Elle est au service de l'amour. Elle est pour permettre un amour toujours plus grand. Et alors là, vous avez bien le lien entre intelligence et volonté aimante, volonté d'amour, comme vous avez l'alliance entre l'agapé et le don de sagesse. Vous mettez le parallélisme, hein, parce que c'est très très beau. L'agapé et le don de sagesse. L'achat de l'amour divin et le don de sagesse. Et le don de sagesse, c'est au service, le don de sagesse et le don d'intelligence. Et le don de sagesse, c'est de l'ordre de l'intelligence. Hein. C'est l'intelligence qui juge dans le don de sagesse, mais d'un jugement affectif et aimant. L'intelligence qui est au service de l'amour et qui dit père. C'est le don d'intelligence qui dit père, et qui reconnaît cette attraction d'amour immédiate du père sur nous. Alors l'intelligence est au service de cette volonté, elle n'est pas du tout en dehors, vous voyez. C'est pas du tout la raison raisonnante et la méditation qui est en dehors, non. C'est au contraire ce premier amour, ce premier moment qui est un moment d'attente, d'ouverture du cœur à l'attraction du bien. Donc question là-dessus sur laquelle nous reviendrons, parce qu'elle est très importante, c'est la question de l'abandon. Parce que c'est très vrai, c'est l'ouverture du cœur, comprendre cette grande ouverture du cœur qui consiste à se laisser attirer par le bien. C'est le bien qui détermine l'ouverture du cœur. Ce n'est pas la connaissance que j'ai du bien. Ça souligne ça en rouge dans tous les sens, parce que c'est très très important. Parce que ce qui arrête constamment et qui nous empêche d'être sous le vol de l'Esprit Saint, c'est parce que nous commençons à réfléchir. Alors nous voulons prendre les rênes. Nous voulons nous-mêmes conduire. Et là, l'Esprit Saint, à ce moment-là, se tait. Il se tait, vous. Parce que Saint-Esprit est très, très poli. Alors si vous voulez prendre les rênes, il vous laisse passer. Tu veux te conduire toi-même? Très bien. Jusque-là, c'était moi qui conduisais. Maintenant, si tu veux, tu es adulte, très bien, je te laisse. Alors, à ce moment-là, c'est la raison. Vous voyez, c'est très curieux, mais on sent très bien ça. On sent très très bien cette exigence profonde de l'amour qui veut être à lui-même sa propre lumière. Alors, dans l'ordre humain, c'est déjà vrai, mais infiniment plus vrai dans le surnaturel. Infiniment plus vrai, parce que, vous voyez, déjà, la foi est... qui implique une ignorance, une sainte ignorance. La foi meurtrie déjà, n'est-ce pas ? La foi meurtrie dans le sens qu'elle éduque notre intelligence. La foi, c'est un jugement existentiel dans toute sa pureté. Je ne connais rien de Dieu, mais j'adhère à lui. Je ne connais rien de Dieu dans le sens d'une connaissance, d'une idée. Je n'ai aucune idée de Dieu, mais j'adhère à lui. Dans l'obscurité. Je ne réalise pas du tout ce qu'est Dieu. C'est impossible. J'adhère à lui. Et c'est pour ça que la foi ne peut vivre que dans l'amour. La foi ne peut vivre que dans l'amour. La foi demande toujours d'être dépassée dans l'amour. Alors là, nous voyons bien le dépassement de l'amour par rapport à la foi, par rapport à la connaissance. Donc, premier moment, c'est très très important. Dernier moment, puisque je ne refais pas toute l'enquête d'hier, je le reprends ici pour que vous compreniez mieux. Dernier moment, le point de vue de la volonté d'efficacité. Autrement dit, et c'est ça qui me semble important à saisir, hein, avec toute la petite enquête que nous avons fait hier, c'est de comprendre ces deux grandes orientations de la volonté. La volonté, capacité d'amour, capacité d'accueil, au plus intime de nous-mêmes. Capacité de se laisser attirer. Et alors là, vous voyez, il y a une acceptation. Alors, est-ce que c'est une acceptation libre? Ça, c'est un très, très gros problème. C'est très, très curieux. Ce premier moment de l'amour, il est au-delà de la liberté. C'est sûr, il est au-delà de la liberté. Je me laisse prendre. Alors, vous voyez, je me laisse prendre. Alors, à ce moment-là, il y a comme une conscience très profonde de l'amour, au-delà de la conscience psychologique. Hein. La conscience de l'amour est au-delà de la conscience psychologique. cette conscience de l'amour, disons cette lucidité de l'amour, c'est peut-être plus vrai. Conscience, je peux mettre le mot conscience, si je prends le mot conscience dans son langage le plus profond, j'ai conscience d'aimer. L'amour n'est pas en dehors, j'ai conscience d'aimer. Mais en même temps, je ne sais jamais très bien. Personne d'entre nous ne peut savoir s'il est objet d'amour ou de haine, hein, la fameuse parole de l'Écriture. Il ne faut surtout pas tomber dans le scrupule là-dedans. Tu vois, mais cette parole qui est de l'Écriture, qui est très très belle, parce qu'elle montre que l'amour doit être sa propre lumière. Parce que si vous aviez conscience d'aimer, vous vous reposeriez sur la conscience d'aimer. Comme je suis heureux, j'aime. À ce moment-là, vous n'aimez plus. Oui, parce que vous êtes heureux d'aimer et vous n'êtes plus tendu vers celui que vous aimez. Et c'est pour ça que, de fait, l'Écriture nous demande de dépasser la conscience que nous avons d'aimer. Nous serions tellement heureux de savoir le degré de sainteté et d'amour que nous avons. Le baromètre ce matin, très très élevé. Vous êtes merveilleux, vous voyez, je progresse dans l'amour. Mais c'est vrai, on serait débordant si on voyait que tous les jours ça m'augmentait, tu vois. Et que Bethléem permet de faire des ponts dans l'enveloppe du propre nerf, la propagande que ça ferait. Alors, vous voyez, cette conscience qu'on aurait d'aimer, à partir de là, c'est plus l'amour. Vous retomberiez dans l'efficience. Vous voudriez réaliser l'amour. Hein, c'est la chose la plus terrible, c'est de vouloir réaliser l'amour. C'est l'efficience à l'intérieur de l'amour, et c'est l'efficience qui reprend le pas sur l'amour. C'est plus l'amour. L'amour, ça ne se réalise pas, ça se vit. On vit l'amour. Et on accepte de vivre l'amour au-delà de la conscience de l'amour qu'on en a. Ce qui, je crois, est l'abandon. C'est ça l'abandon. Pourquoi l'abandon est-il fondamental? C'est pour sauver l'amour. Vous faites plus confiance à celui que vous aimez qu'à vous-même. Ce qui n'est pas commode, hein, parce que vous faites pas mal de confiance à vous. Tous comme ça, parce que c'est un peu fou. On se fait vraiment confiance à soi. Sauf si vraiment nous avons un psychisme trop délabré. Bon, alors à ce moment-là, on se dit, je ne peux pas avoir confiance en moi, je sens très bien. Alors c'est pas pour moi non plus, ça. Mais normalement, le propre de l'abandon, c'est de faire confiance plus à celui qu'on aime qu'à nous-mêmes. Et pour faire confiance plus à celui qu'on aime qu'à nous-mêmes, il faut justement dépasser la conscience de l'amour. C'est aimer. Puisque l'amour nous met directement en liaison avec celui qui nous attire. Et c'est le grand mystère de l'amour, hein. Même au plan humain, c'est un grand mystère. C'est le mystère, je dirais, philosophique. Je crois qu'il n'y a que ce mystère philosophique. C'est le seul, pour moi. C'est le mystère philosophique. Dans un langage, vous voyez, de Gabriel Marcel, hein, c'est le mystère philosophique. Parce que l'amour, je n'arriverai jamais à savoir parfaitement ce que c'est. J'essaie, mais c'est quelque chose qui me dépasse. Vous voyez, là, l'expérience dépasse toute l'analyse. Hein. Le vécu dépasse toute l'analyse. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et mon intelligence doit accepter d'être au service. Et en étant au service de l'amour, mon intelligence s'ennoblit. La grandeur de l'intelligence, c'est de permettre à l'amour de passer devant. C'est ça la grandeur de l'amour. C'est ça la grandeur de l'intelligence, c'est de permettre à l'intelligence de passer devant. Et justement d'être là pour soutenir cet effort permanent d'aimer, ce dépassement constant du bien qui m'attire, du bien qui est devant moi, du bien personnel. Donc, première dimension fondamentale de la volonté. La volonté est faite pour aimer. Deuxième dimension de la volonté possède un mode d'efficacité. Alors voyez bien là encore, hein, le mode d'efficacité, ce n'est pas la finalité de la volonté. La finalité, conditionnement, finalité, hein, je vous prends exprès pour que vous voyez mieux. La finalité de la volonté, c'est l'amour. La volonté est faite pour aimer. Elle est faite pour aimer. Et pour aimer de plus en plus. Et pour aimer infiniment. Même au plan humain, vous ne pouvez jamais dire « j'aime assez ». Le jour où vous dites ça à un ami, « je t'aime assez », c'est suffisant, c'est fini. C'est fini. Parce que vous n'avez pas compris que c'était une finalité. Et ne comprenant pas que c'est une finalité, vous ne comprenez pas que c'est un absolu. La personne humaine est un absolu. Les qualités de la personne humaine ne sont pas un absolu, mais la personne humaine est un absolu. Elle a en elle-même quelque chose qui est capable de m'attirer indéfiniment. Donc de permettre d'aimer. Alors, infiniment plus vrai dans l'ancien naturel. Hein. Dans l'ancien naturel, ça va infiniment plus loin. Mais c'est la même chose, profondément, la volonté à quelque chose d'infini. Il reste très très beau de voir ça. Elle a quelque chose d'infini. Donc on peut aimer toujours plus. Quel est le conditionnement de ma volonté? Le conditionnement de ma volonté, c'est l'efficacité. Vous voyez, je mettrai un parallélisme pour que vous compreniez bien, un parallélisme analogique, hein, puisque vous comprenez bien ce que c'est que l'analogie et qu'il faut vous familiariser avec la pensée analogique. Alors je fais le parallélisme analogique. Vous allez tout de suite comprendre, ce sera très très lumineux, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que, je me mets en rouge pour que vous voyez mieux. Alors, l'intelligence est à la raison ce que le cœur spirituel est à la volonté d'efficacité. Alors, on peut très bien mettre ce parallèle, ça, parce que c'est rigoureux, ça. L'intelligence est à la raison ou l'entendement, n'est-ce pas ? L'intelligence est à la raison ce que le cœur spirituel est à la volonté d'efficacité. Donc, là, si nous comprenons ça, nous comprenons tout de suite la différence entre la finalité et le conditionnement. La finalité, c'est l'intelligence qui cherche la vérité. La finalité, c'est la volonté, c'est le cœur spirituel qui aime. Et le conditionnement, c'est ma raison. Je suis obligé de raisonner pour être intelligent, comme vous voulez. C'est très très dommage. Si je pouvais être intelligent sans raisonner, comme ce serait plus commun. Pour tout le monde, et surtout pour mon voisin, parce que c'est assommant des gens qui raisonnent indéfiniment. J'ai l'impression. Alors, je suis obligé. Il ne faut pas raisonner trop. Si vous raisonnez trop, vous tuez l'intelligence. Phénomène de l'avalanche. Et l'avalanche, c'est terrible, hein, c'est très bien. Quand un bout de neige vous tombe sur le bout du nez, c'est très très agréable. Premier bout de neige qui tombe côté main. Quand c'est l'avalanche, hein, c'est autre chose. Mais c'est la même. C'est alors le raisonnement, c'est très très bien. C'est très très bien le raisonnement quand il reste intelligent. C'est-à-dire quand le raisonnement est pour l'intelligence. Mais quand le raisonnement reste le raisonnement pour le raisonnement, il devient bête. J'ai déjà vu des gens qui raisonnaient indéfiniment à la fin du dit, écoutez, je vous en prie, taisez-vous. C'est tellement bête vos raisonnements. Et c'est vrai, le raisonnement pour le raisonnement, c'est la méditation pour la méditation. C'est absurde, pas de but. Vous voyez, moulin à café qui tourne sans le grain de café. Il n'y a plus rien à dire. Alors, c'est le raisonnement pour le raisonnement. C'est important de saisir ça, que de fait, le phénomène de l'avalanche, situation limite, c'est lorsque le conditionnement est tellement lourd qu'il écrase la finalité. Alors là, vous avez le phénomène du côté de l'intelligence, c'est très net, c'est le raisonnement qui l'emporte sur la recherche de la vérité, sur le désir de contemplation. Et du côté de la volonté, c'est la volonté d'efficacité qui l'emporte sur la volonté d'amour. Ça arrive, ça. Notre monde d'aujourd'hui est en situation limite au point de vue volonté. C'est la volonté, est une volonté d'efficacité qui tue la capacité d'aimer. La qualité de l'efficacité, c'est la rapidité. Je ne dis pas l'agitation, mais la rapidité. Et très souvent, le caractère de l'efficacité sera l'agitation. Et là, à partir de ce moment-là, elle se tue elle-même. Un homme agité ne fait plus rien de bon. La qualité de l'efficacité, c'est la rapidité. Notre monde est un monde de rapidité, d'efficacité. Alors, c'est l'efficacité qui devient telle qui tue la capacité des gens. Vous êtes déjà rappelé cette parole que la psychanalyse qui m'avait beaucoup frappé, un ami qui est mort maintenant, mais qui était un homme très intelligent, qui réfléchissait beaucoup, et qui avait été à Londres, et qui avait vu dans son année 400 cas d'enfants meurtriers. C'est quand même pas mal. Hein. 400 cas. On a raconté, les vertes et les pas mûres, hein, c'était quelque chose. Ils étaient 7 psychanalystes à voir ça. Et à la fin de l'année, ils ont essayé de réfléchir. Pourquoi les enfants tuent? Pourquoi les enfants sont meurtriers? C'est tellement anormal, hein, un enfant qui est meurtrier. Et là, ils ont eu cette réflexion. Il n'y a plus assez d'amour dans le monde. Le monde d'aujourd'hui n'aime plus assez. Ces enfants ont manqué d'amour. Et parce que ces enfants ont manqué d'amour, ils sont tombés dans l'efficacité. Ils disaient que ça passait tout à fait, mais au fond, c'était ça que ça voulait dire. Ils manquaient d'amour dans le monde. Vous voyez, phénomène de l'avalanche. Il faut du temps pour aimer. Il faut du recul pour aimer. Il faut être intelligent pour aimer. Si votre intelligence se perd dans le raisonnement, vous ne pouvez plus aimer. Puisque l'amour spirituel va se gâter en velléité et va se gâter en amour passionnel, sentimental. C'est astucieux, vous savez, le démon est très astucieux, parce que le désir du Christ, je suis venu dans ce monde pour donner le feu. Et mon unique désir, c'est que ce feu brûle tout. Et quand vous entendez les psychanalystes du XXe siècle, la fin du XXe siècle, dire « ces enfants manquent d'amour », or les enfants sont toujours révélateurs d'un monde qui monte. Toujours les enfants.